aujourd'hui à Washington.
Bonsoir à tous, Claire Morin-Gibourg avec vous en direct du studio 9 de la Voix de l'Amérique à Washington. Bienvenue dans le monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir, le Sénégal est en liesse. Les Lions de la Teranga ont battu la Pologne 2 buts à 1 lors de leur premier match en Coupe du Monde. La RDC dans l'attente d'une session extraordinaire du Parlement qui doit débattre d'une loi pour protéger les anciens présidents élus. 18 morts à Abidjan à la suite des pluies diluviennes la nuit dernière. Le président sud-soudanais Salva Kiir et le chef rebelle Riek Machar doivent se rencontrer demain à Addis Ababa. Et puis les tribunaux sont paralysés en Guinée. Sans oublier dans un peu plus de 10 minutes le journal du mondial présenté par Yacouba Ouedraogo. Mais d'abord le journal. Dans l'actualité africaine, en RDC, c'est l'attente d'une adresse du président Joseph Kabila concernant son avenir politique. Le Parlement se réunit demain en session extraordinaire et doit débattre du statut des anciens présidents élus. Le point avec Morgane Guériec.
À 6 mois des élections, cette session extraordinaire du Parlement suscite de nombreuses attentes. Députés et sénateurs doivent débattre de la loi pour protéger les anciens présidents élus, un texte qui doit leur garantir la sécurité, celle de leur famille et de leur patrimoine. Le président Joseph Kabila pourrait également faire un discours sur l'état de la nation et nombreux sont ceux qui attendent qu'il se prononce enfin sur ses intentions à 6 mois des élections. Le second mandat du président congolais s'est achevé en décembre 2016 et selon la Constitution, il ne peut briguer un troisième mandat. Le chef de l'État congolais n'a pourtant jamais annoncé clairement ses intentions. Il s'est jusqu'ici contenté de dire que la Constitution sera respectée. Au cours d'une visite en Angola, Léonard Tché Okitundu, ministre congolais des Affaires étrangères, a évité de répondre à une question sur une éventuelle candidature de M. Kabila. Il a également nié toute tension avec l'Angola.
RDC toujours, la détention provisoire de 5 militants du mouvement pro-démocratie Filimbi, poursuivis pour outrage à la personne du chef de l'État, a été prolongée de 15 jours d'après leur avocat. Au Mali, Tiena Koulibaly, le ministre de la Défense, reconnaît l'implication de certains personnels de l'armée dans des violations graves ayant occasionné mort d'homme. Ce sont ses mots. 25 corps avaient été découverts dans 3 fosses communes près de Mopti une semaine après une série d'arrestations par l'armée malienne dans le centre du pays. En Gambie, le président Adama Barrow a condamné aujourd'hui les violences policières qui ont fait 2 morts hier. 2 jeunes hommes ont été tués par la police à Faraba Banta. Les jeunes manifestaient contre un site d'extraction de sable qui, selon eux, pollue les rizières de cette région bordant le fleuve Gambie. La Côte d'Ivoire compte ses morts après la forte pluie qui s'est abattue la nuit dernière sur la capitale économique ivoirienne Abidjan. Un bilan provisoire fait état de 18 morts. Les précisions de notre correspondant Georges Ibrahim Tunkara.
Une dizaine de morts selon les sapeurs-pompiers, plusieurs blessés et des disparus. La pluie qui s'est abattue dans la nuit de lundi à mardi sur la capitale économique ivoirienne a fait de nombreuses victimes et d'importants dégâts matériels. Particulièrement touché, le quartier de la Riviera, à l'est d'Abidjan.
C'est terrible de se voir réveillé à plein 2h du matin et sans soutien, sans secours. Nous sommes vraiment désolés de voir tout ce qui se passe. Cette rue ministre, ça fait plus de combien d'années, on nous promet de venir la ranger, on ne voit personne. Vraiment, le même est venu tout à l'heure, il était vraiment au devant de tout, mais... impuissant. Oui, c'est la. Ouais, on allait chercher une remorque pour venir. On me nous dit, on va tirer ça à 75 000. Ça, que vous voyez.
Des routes impraticables, des maisons et des ponts effondrés, des véhicules emportés par les eaux. La capitale économique ivoirienne est sous le choc. Le premier ministre ivoirien Madougon Koulibaly, après avoir présidé une réunion ministérielle des crises, s'est rendu sur le terrain pour apporter la compassion du gouvernement aux victimes. Selon les services météorologiques, la situation ne devrait pas s'arranger. Des nouvelles pluies sont annoncées. Georges Ibrahim Tunkara, Abidjan, VOA Afrique.
Le Niger aussi risque d'être confronté en 2018 à de nouvelles inondations qui pourraient affecter plus de 170 000 personnes, selon les Nations Unies. Au Nigeria, 9 soldats ont été tués et 2 autres ont été blessés dans une attaque attribuée à des combattants de Boko Haram dans le nord-est du pays. L'attaque a eu lieu hier après-midi à Gejiram, à 80 km au nord de Maïdougouri, la capitale de l'état de Borno. Les présidents sud-soudanais Salva Kiir et le chef rebelle Riek Machar doivent se rencontrer en face à face demain à Addis Abeba pour la première fois en près de 2 ans. Une rencontre qui pourrait constituer un pas vers une paix durable dans la région. Le point avec Lionel Gaïma.
La rencontre aura lieu à Addis Abeba à l'invitation du Premier ministre éthiopien. Abiy Ahmed appelle les deux frères ennemis à résorber leurs divergences et à travailler à la pacification du Soudan du Sud, un pays en proie à la guerre civile depuis plus de 4 ans. La rencontre sera supervisée par l'organisation régionale IGAD qui a chapeauté une série de pourparlers de paix ces derniers mois et qui n'ont jusque-là produit aucun résultat tangible. La communauté internationale et en premier lieu les États-Unis font pression depuis des longs mois pour tenter de réactiver un accord de paix conclu en août 2015 et qui a été maintes fois violé. Cette rencontre entre le président Salva Kiir et son ancien vice-président est une première depuis les violents combats qui avaient secoué Djouba en juillet 2016 et avaient amené Riek Machar à quitter la capitale sud-soudanaise pour aller vivre en exil.
Le passeport diplomatique centrafricain de Boris Becker est un faux. C'est ce qu'a assuré Chérubin Morumba, le directeur de cabinet du ministre centrafricain des Affaires étrangères. Mi-juin, l'ancienne star du tennis mondial a brandi un passeport diplomatique pour se défaire d'une poursuite pour dette à Londres.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le reste de l'actualité dans le monde, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a entamé ce mardi une visite de 2 jours en Chine, une semaine après sa rencontre historique avec le président américain Donald Trump. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
L'homme fort de Pyongyang cherche à obtenir un assouplissement des sanctions économiques en échange de ses promesses de dénucléarisation et espère le soutien de la Chine. La diplomatie chinoise, tout comme celle russe, a suggéré la semaine dernière que les Nations Unies pourraient envisager d'alléger les sanctions si Pyongyang se conformait à ses obligations. La Chine a proposé ses services diplomatiques. La semaine dernière, le sommet historique entre Donald Trump et Kim Jong-un a débouché sur une déclaration dans laquelle le dirigeant nord-coréen a réaffirmé son engagement pour la dénucléarisation de la péninsule coréenne. C'est la 3e visite en Chine du dirigeant nord-coréen en moins de 3 mois. Fin mars, il a effectué à Pékin son premier déplacement à l'étranger depuis son arrivée au pouvoir fin 2011. En mai, il est retourné en Chine. Kim Jong-un et le président Xi Jinping ne s'étaient auparavant jamais rencontrés depuis leur arrivée respective au pouvoir. Pyongyang reprochait à son allié d'appliquer les sanctions internationales contre le programme nucléaire.
Les États-Unis restent ouverts au dialogue avec la Chine pour résoudre leur conflit commercial. C'est ce qu'a assuré aujourd'hui Peter Navarro, un des conseillers économiques de la Maison-Blanche, une déclaration faite au lendemain de l'annonce de nouvelles menaces de taxes douanières sur 200 milliards de dollars d'importations chinoises. Le ministre mexicain des Affaires étrangères, Luis Videgaray, a condamné la séparation des familles de migrants qui entrent clandestinement aux États-Unis, qu'il a qualifié de cruelle et inhumaine. Le président français Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel ont annoncé travailler à un accord entre plusieurs pays de l'espace Schengen visant à refouler tout demandeur d'asile vers l'État où il a été enregistré en premier. Et puis le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a estimé que les migrations, phénomène qui pose un casse-tête aux dirigeants de la planète, étaient inévitables et nécessaires. La question fait actuellement rage tant en Europe qu'aux États-Unis. La communauté internationale doit se retrouver les 10 et 11 décembre prochains à Marrakech pour une conférence sur les questions migratoires. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Tout de suite, le journal du mondial présenté par Yakuba Ouedraogo.
Bonsoir. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal du Mondial. L'Afrique tient enfin sa première victoire dans le Mondial 2018. Ce sont les Lions de la Teranga qui ont sauvé l'honneur. Victoire du Sénégal 2-1 devant la Pologne de Robert Lewandowski. Dans un premier acte plutôt fermé, les Lions se sont montrés beaucoup plus tranchants sur les attaques rapides, alors que les Aigles Blancs ont eu beaucoup de mal à trouver des solutions dans le camp sénégalais. Après plusieurs situations intéressantes, la bande à Aliou Cissé finissait par trouver la faille sur une frappe de Gana Gueye déviée par Sionek dans son propre but, 1-0 à la 38e, même score à la mi-temps. À la reprise, Mbaye Niang a permis au Sénégal de mener 2-0 à la 60e. Krychowiak a réduit le score entre-temps pour la Pologne à la 86e, score final 2-1. Les Lions prennent ainsi la première place du groupe H aux côtés du Japon vainqueur de la Colombie sur le même score. Scène de liesse populaire à Dakar, comme vous pouvez l'imaginer. Nous avons joué notre envoyé spécial à Dakar, Abdourahman Dia, sur place.
Yakuba, je viens de la place de l'Obélisque où il y avait deux écrans géants pour des centaines de fans. L'ambiance était électrique, il faut le dire, et en ce moment, dans les rues de Dakar, comme vous pouvez l'imaginer, l'ambiance est également au top. Les supporters étaient un peu tendu vers la fin du match quand la Pologne a marqué un but. Mais à part ça, tout au long des 90 minutes, c'était une ambiance électrique qui rappelle un peu celle de 2002, même si pour l'instant ce n'est pas comparable, Yakuba.
Vous êtes dans un taxi, vous avez quelqu'un avec vous, est-ce qu'on peut l'entendre?
Oui, quelle est l'ambiance à Dakar et qu'est-ce que vous pensez de la victoire des Sénégalais?
Oui, l'ambiance c'est bien, très bien. C'est une finale pour l'Afrique. Parce que tous les Africains ont battu, mais le Sénégal a battu la Pologne. Vraiment, c'est beau.
Le mondial qui bat son plein à Dakar, les affaires sont aussi florissantes grâce à la Coupe du Monde. Drapeau et autres articles liés à l'équipe sénégalaise se vendent comme de petits pains. Notre envoyé spécial à Dakar, Abdourahman Dia, a promené son micro au marché de Sandaga. Écoutons les réactions de quelques commerçants qui se frottent les mains.
Nous vendons quand même pas mal de maillots. Vous savez, nous exposons nos articles et tout est en vert, jaune, rouge, en espérant une victoire et nous pensons que nous pouvons gagner.
Oui, les maillots se vendent très bien. Surtout les maillots et les casquettes. Et si l'équipe gagne, les affaires iront mieux pour nous. Plus l'équipe fait de bons résultats, et mieux ça ira pour nous. Espérons que l'équipe ne perdra pas, car si elle gagne, ce sera tellement bien qu'on se fera plus d'argent que pendant les fêtes de Tabaski.
Bien avant le match Sénégal-Pologne, la Colombie a passé une sale journée face au Japon. Une défaite 2-1 et un exclu, le premier du mondial, à 10 contre 11. Pendant près d'une heure et demie, la Colombie s'est mise toute seule en grande difficulté. Elle a perdu contre l'adversaire supposé le plus faible de son groupe. L'édition 2018 commence bien mal pour les partenaires de Radamel Falcao, avec une défaite concédée malgré un joli coup franc de Juan Quintero à la 39e, sur des buts de Shinji Kagawa, sur pénalty à la 6e et Yuya Osako de la tête à la 73e. Hier, l'Afrique a enregistré sa 4e défaite après l'Égypte, le Maroc et le Nigeria. Ce fut le tour de la Tunisie de passer à la trappe. Harry Kane a crucifié les Aigles de Carthage. Un doublé de l'attaquant anglais a sauvé in extremis l'Angleterre du piège tunisien 2-1. Le capitaine anglais a enfoncé le clou dans les arrêts de jeu à la 91e pour délivrer les 3 Lions, jusque-là incapable de se défaire des Tunisiens accrocheurs. Kane avait aussi ouvert le score à la 11e minute avant l'égalisation tunisienne par Sassi sur pénalty à la 35e. C'est le coup sifflé de Jules Valentin Ngoué depuis Libreville.
Bonjour. Pour la 4e sortie d'une équipe africaine dans ce mondial russe, la Tunisie était venue avec la ferme intention d'inverser une tendance jusque-là négative, avec 3 défaites et aucun but marqué par les ambassadeurs du continent. En Afrique, la Tunisie a la réputation de produire le football le plus proche de celui joué de l'autre côté de la Méditerranée. Un bon équilibre entre la technique latine et le cynisme tactique à l'italienne, alternant des défis physiques et des phases créatives au-dessus de la moyenne, qui font de cette équipe la bête noire de toutes les formations d'Afrique du Nord. Dans l'incontestable opposition de style qu'ils ont eu à affronter contre une équipe anglaise renouvelée depuis l'Euro 2016, les Aigles de Carthage ont miraculeusement desserré l'étau installé par la jeune garde britannique autour des Kane, Sterling et autres Rashford, en particulier en fin de première mi-temps. Mais les Tunisiens sont aussi connus pour leur travers habituel, celui de préférer la posture de réaction à celle d'action, tout l'attentisme observé en seconde mi-temps, alors que les Africains, qui avaient récupéré la possession du ballon, se sont contentés de faire courir les Anglais, prenant des risques avec des rétropasses qui vont attirer les chasseurs de buts britanniques dans la zone fatale. D'où ce deuxième but assassin d'Harry Kane au temps additionnel. La Tunisie est punie par là où elle a pêché. Il ne reste plus qu'à, au dernier de cordée, le Sénégal à en tirer les leçons.
Voilà qui met fin à ce journal du Mondial.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour. En RDC, le Congrès doit se réunir à partir de demain en session extraordinaire sur convocation du président de la République. Parmi les sujets qui seront débattus, les statuts et la protection des anciens chefs d'État congolais. Le président Joseph Kabila prononce à l'ouverture un discours à la nation qui est beaucoup attendu. Eddy Issango a joint à Kinshasa le constitutionnaliste Laurent Outchoumbé.
Les signaux forts de la CENI démontrent à suffisance qu'effectivement la date sera tenue. Donc je pense que le président de la République vient appeler la nation à ce qu'elle se prépare au fait que ces élections aient effectivement lieu à cette date, de telle sorte que pour les groupes politiques et les groupes socio-culturels, je parle de la société civile bien entendu, se mobilisent parce qu'aujourd'hui il y a des gens qui ne croient pas que la date que la CENI a annoncée pour les élections sera respectée. Donc je pense qu'en tant que le garant de la nation, il va tout simplement appeler la population à considérer qu'il est évident que les élections auront lieu à cette date.
De quoi sera faite cette session extraordinaire qui est convoquée au Parlement?
Nous avions tous suivi la lettre de convocation de cette session extraordinaire du Parlement. Il a été noté que le Parlement, c'est-à-dire le Congrès, va s'atteler pour l'examen de la loi relative au statut des anciens chefs de l'État en République démocratique du Congo. Ça, c'est la première thématique qui sera discutée par les deux chambres du Parlement, mais également le chef de l'État va s'adresser à la nation, parce que vous savez que notre Constitution donne l'opportunité au chef de l'État de s'adresser à la nation une fois là au travers les deux chambres réunies à Congrès.
Est-ce que la Constitution ne garantit pas déjà suffisamment les statuts d'anciens chefs d'État pour qu'on en ajoute autre chose?
De façon principale, la Constitution prévoit effectivement que tout ancien chef de l'État en République démocratique du Congo devient sénateur à vie. Mais les modalités pratiques, le Parlement doit logiquement donner un peu de détails sur la faisabilité. Parce que même la Constitution ne donne pas les modalités pratiques. Dans combien de jours le chef de l'État sera sénateur? Quelles sont les modalités pratiques de sa cooptation? Donc je crois que toutes ces questions-là, en détail, que les parlementaires doivent mettre dans une loi pour que la nation respecte.
Dans le passé, un sénateur avait proposé une loi comme ça qui n'est jamais passée au vote.
La question n'a jamais été débattue et rejetée. C'est la toute première fois, parce que le chef de l'État a le mandat de pouvoir convoquer une session extraordinaire, c'est la toute première opportunité qui est offerte aux deux chambres du Parlement de pouvoir discuter sur une loi que moi j'estime assez importante, surtout pour notre pays.
La Constitution de la République démocratique du Congo limite à deux les mandats du président de la République. Mais est-ce que c'est possible que celui-ci revienne après avoir laissé passer quelques mandats, un peu comme en France, on l'a vu avec Sarkozy?
Effectivement, c'est l'option qui a été levée par les constituants congolais. Tout ce qui est interdit chez nous, c'est pouvoir renfler consécutivement trois mandats. Alors, si un seul mandat passe et le président qui a fait deux mandats peut revenir, faire encore deux mandats, repartir et passer un mandat et revenir encore deux fois, il n'est pas interdit.
En fait, la formulation ne semble pas très claire là-dessus.
La lecture ministérielle de l'article 71 et sa suite démontrent à suffisance que ce qui est interdit, c'est renfler de façon effectivement consécutive trois mandats.
C'était Laurent Outchoumbé, avocat et constitutionnaliste à Kinshasa.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Congo-Brazzaville, une mission humanitaire composée du gouvernement des Nations Unies et de l'Union Européenne s'est rendue lundi à Mbanza Ndunga, dans le Pool, pour assister les populations qui retournent dans leur village après des mois de violences armées. À la suite de cette visite, l'ambassadrice de l'Union Européenne s'est dit préoccupée par les mauvaises conditions de vie des sinistrés qui retournent chez eux. Notre correspondant Arsène Séverin a fait le déplacement à Mbanza Ndunga.
Après avoir octroyé des fonds nécessaires pour apporter de l'aide alimentaire aux déplacés du Pool, l'ambassadeur de l'Union européenne est allé sur le terrain pour échanger avec les bénéficiaires. Saskia Delong a constaté qu'il y avait encore beaucoup de choses à faire pour la réinstallation des sinistrés.
la situation dans le pool et le dénuement dans lequel les populations vivent quand même. Nous voyons que beaucoup de déplacés sont déjà rentrés chez eux, mais ils trouvent des situations extrêmement difficiles, des maisons délabrées ou bien détruites, des champs qui n'ont pas été cultivés, des points d'eau qui ont été détruits. Donc tout est à reconstruire et ça ne se fait pas d'un jour à l'autre et il faut aider donc ces populations.
La ministre en charge des Affaires sociales, Antoinette Nzinganjondo, qui suit de près ce dossier, a reconnu des faiblesses et ne sait parfois pas par quel bout commencer. Les besoins sont énormes et le gouvernement n'arrive toujours pas à réunir les fonds nécessaires.
Le relèvement, ça prend du temps. Il n'y a pas un secteur qui est plus que l'autre. L'eau, l'assainissement, l'éducation, la santé, tout est à refaire. Et évidemment, il y a le logement, parce qu'ils ont perdu leurs abris.
La situation sécuritaire est mi-figue, mi-raisin dans cette partie du pool, et les miliciens ninjas, reconnaissables à leur tignasse, n'ont pas encore rendu les armes. Cela ne rassure pas les 23 000 habitants de Mazandunga qui hésitent de retourner chez eux. L'abbé Paraclet Mutila.
Le calme est revenu. Sur la route, là, vous avez vu, il y a encore la présence de nos frères là et tout ça. Ben, qu'est-ce que ça va donner? Il y a un peu de crainte, mais je réitère qu'il y a plus de peur que de mal.
Par contre, l'assistance alimentaire apportée grâce aux fonds européens se passe bien. Le PAM a mis en place un système de cash transfert qui permet un service rapide. Dans les villages où les conditions ne sont pas réunies, les vivres sont directement servis aux bénéficiaires. Jérôme Tokanou de la Caritas Congo.
Il y a un mouvement de retour, voilà pourquoi Caritas appuie cette population avec l'aide de l'Union européenne, le PAM et tous ceux qui sont vraiment habilités à pouvoir venir en aide à cette population-là. Ça s'est stabilisé, voilà pourquoi les humanitaires fréquentent maintenant le milieu. Parce que quand il n'y a pas stabilité, les humanitaires n'ont pas aussi accès. Le ministère ne prend pas vraiment le risque de donner l'accès aux humanitaires sans qu'il y ait la paix.
Les populations continuent d'appeler au retour définitif de la sécurité pour qu'elles cultivent leurs terres et vivent dans la prospérité. De retour de Mazandunga, Arsène Séverin, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
En Guinée, une grève des greffiers paralyse les tribunaux depuis quelques jours. Les grévistes étaient ce matin à la Cour suprême pour réclamer l'annulation de la suspension de leurs collègues. La sanction contre les meneurs du mouvement par le ministre guinéen de la Justice est une intimidation, affirment les greffiers, qui menacent de poursuivre la grève jusqu'à satisfaction de leurs revendications. Reportage à Conakry de Zakaria Camara.
On a attaqué la décision du ministre, nous attendons un procès, semblait satisfait devant la Cour suprême, Mamadou Diandjalo, l'un des 5 greffiers suspendus. La démarche des greffiers est une réaction à la décision du ministre guinéen de la Justice qui a suspendu de leurs fonctions les meneurs de mouvements de grève pour troubles et atteinte au bon fonctionnement de l'administration. C'est une violation de la loi, selon Mamadou Diandjalo, porte-parole des greffiers.
Le ministre seul ne doit pas se retrouver dans son bureau, prendre un acte unilatéral comme ça pour sanctionner un greffier. Ça obéit à une certaine règle qui est contenue dans le statut particulier.
La loi fondamentale et le décret portant création du statut particulier des greffiers n'ont pas été respectés, dénonce à son tour Maître Salif Beavogui, avocat des grévistes qui se dit surpris.
Ce qui m'attriste en lieu et place des négociations, eh bien, on passe par leur suspension. Cela me paraît sincèrement inapproprié. Je suis attristé, je suis vraiment dépassé, je suis révolté.
Les greffiers réclament de meilleures conditions de travail. Tamba Wondino a été lui aussi suspendu pour avoir créé un vide dans les cours et tribunaux.
Le premier point, le paiement des indemnités et primes de tous les greffiers. Le deuxième point, la mise en place de la commission administrative paritaire. Et le troisième point, c'est l'institution d'une formation professionnelle continue pour tous les greffiers. Et le dernier point, c'est le reclassement effectif de tous les greffiers en chef et des greffiers qui ne sont pas reclassés dans la hiérarchie A de la fonction publique.
92 greffiers ont décidé de poursuivre le mouvement. Seuls les greffiers en chef n'ont pas observé le mot d'ordre de grève. Conakry, Zakaria Camara, VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets, débats. RM Show donne la parole à nos auditeurs. En direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Grandmoms and dads sailed in ships and boats to Ellis Island and down the coast, torn away from shattered homes. They cleared land they didn't own, plant and seed, fought wars so we'd be free. Now we're keepers of the peace.
Cette édition, merci de votre fidélité à VOA Afrique, à la mise en onde Joselle Morissin, à la console Bill Barber, au micro Claire Morin-Gibourg. Pour plus d'informations 24h sur 24, un seul site internet voafrique.com et notre page Facebook bien sûr. Restez avec nous tout de suite, le RM Show. Je vous souhaite une excellente soirée, une excellente nuit à l'écoute de nos programmes.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur ondes courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Les États-Unis donnent une autre preuve de leur détermination à aider les pays africains dans la lutte contre le terrorisme. Ils offrent des millions de dollars pour toute information sur plusieurs hauts leaders de l'organisation terroriste liée à Al-Qaïda et basée en Somalie, Arakat al-Shabaab, al-Mujahideen ou al-Shabaab. Le groupe, classé organisation terroriste depuis 2008, combat le gouvernement somalien pour le contrôle du pays et a aussi mené une série d'attaques terroristes au Kenya. Il est responsable de la mort des milliers de civils somaliens, d'activistes, des journalistes, des travailleurs humanitaires internationaux, des civils et des soldats de la force africaine qui aident à rétablir la stabilité et la prospérité dans la région. Des dizaines de milliers de personnes ont été forcées de fuir leur domicile du fait des combats. Sous la désignation d'organisations terroristes, les États-Unis ont imposé des restrictions financières et autres aux groupes, bloquant ses avoirs et interdisant aux citoyens américains d'avoir des relations d'affaires avec ces militants. À présent, les États-Unis offrent des primes pour toute information pouvant aider à localiser 5 leaders du groupe. Ainsi, une prime allant jusqu'à 5 millions de dollars est offerte pour tout renseignement sur Mohamed Khalaf, de double nationalité somalienne et suédoise, également connu sous le nom de Fouad Sangalé, et Béchir Mohamed Mahamoud, chef militaire d'Al-Shabaab, qui serait né entre 1979 et 1982. Une prime allant jusqu'à 3 millions de dollars est offerte pour toute information pouvant mener à Abdoulane Yare, responsable des médias d'Al-Shabaab. Les États-Unis garantissent que tout renseignement crédible fera l'objet d'enquêtes et l'identité des informateurs sera gardée secrète. Si nécessaire, les États-Unis sont disposés à les réinstaller ailleurs pour leur sécurité. Si vous avez des informations sur l'un de ces hommes, contactez le bureau régional de sécurité à l'ambassade américaine la plus proche et le site d'information www.rewardsforjustice.net ou envoyez un email à l'adresse suivante info@rewardsforjustice.net. En Amérique du Nord, vous pouvez appeler au 1-800-877-3927.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.
Bienvenue à bord.